Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, un troisième entretien, une rencontre aujourd'hui. Et c'est avec vous, Père Eton. Bonjour, Père.
Pour la troisième rencontre.
Voilà. Et oui, de la semaine. Alors, pour ceux et celles qui prendraient cette série en cours de semaine, je rappelle que votre nom est Henri Gémier, que vous êtes recteur depuis près d'un an de ce sanctuaire du Mont Saint-Michel et prêtre exorciste depuis 6 ans. Et on va parler un peu de cette mission qui vous a été confié. Vous avez dit oui tout de suite, Père Eton.
J'ai hésité, bien qu'au Mont-Saint-Michel, en tant que chaplain, puisque je suis chaplain depuis 7 ans, je répondais aux courriers. Et il y a énormément de courriers où les gens envoient du courrier au sanctuaire pour justement toutes ces questions du mal, de pourquoi je suis touché par le mal, pourquoi je souffre. Toutes ces questions de souffrance adressées à l'archange.
Alors des croyants, des non-croyants, tous les profils.
Plutôt des croyants.
Plutôt des croyants.
Et demander l'aide de Saint-Michel. Alors bien sûr, on sait que Saint-Michel, c'est celui qui combat contre le mal, qui ne le tue pas. D'ailleurs, toutes les représentations de Saint-Michel, dans toutes les églises, je regarde comment est posée l'épée de Saint-Michel. Et j'ai remarqué partout, il est dessus, mais jamais. Il y a un symbolisme très fort parce que ça veut dire que même Saint-Michel ne tue pas. Ça voudrait dire que si le démon est tué, donc il n'a plus d'existence. Or, il existe toujours. Et dans l'évangile, il y a une phrase, moi, qui m'a toujours bouleversé quand Jésus dit aux disciples, si vous chassez un démon, il en viendra cet autre. Oh là là, d'où il débarque cela? Ils étaient camouflés, prêts pour savoir s'il y en avait un qui allait disparaître, tant que les autres arrivent. Ma question, est-ce qu'ils arrivaient les uns après les autres ou ils arrivaient tous ensemble? C'est pour ça que c'est très important pour moi. Alors, je répondais à ce courrier et puis, quand le père évêque m'a demandé pour être exorciste du diocèse, j'ai dit, je vais réfléchir. J'ai jamais pris de décision immédiatement. C'est jamais bon de prendre une décision rapidement. À la prison, ça m'a appris ça. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut dire qu'on l'a réfléchi, on l'a mûri, et puis petit à petit, on entend des avis différents. Et j'ai réfléchi et je me suis souvenu que mon accompagnateur au séminaire de la Mission de France, c'était le père Philippe Deschamps qui avait monté le centre Saint-Irénée pour le diocèse de Paris, où il recevait énormément, et il était aumônier de l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne. Donc, sur toutes ces questions de diable, d'exorcisme, il m'en avait parlé. Et moi, je ne me voyais pas vers ça. C'est marrant, hein. Et c'est quand même bizarre, parce qu'en prison, le diable, il est en permanence. Moi, je n'oublierai jamais ce gamin qui m'avait dit un jour en larmes, « Monsieur Henri, ouvre mon crâne !» Prends une pince et tire le morceau de ma cervelle qui me fait faire le mal. J'avais trouvé cette invitation de ce jeune vraiment un peu... Mais c'est vrai. Donc je ne me voyais pas répondre tout le temps à ces questions parce que je sais que ça demande beaucoup de temps. Et puis après, je me suis dit, allez, puisque tu es appelé, on y va. Moi, j'ai toujours été un peu comme ça. Mais la même chose pour prêtre de la Mission de France, vous savez. Moi, je voulais pas quitter le travail. On me dit, ce prêtre qui m'accompagnait, je lui ai dit, je voudrais pas quitter ce monde dans lequel je suis. Je voudrais pas quitter, moi, mes copains de l'orphelinat, en étant en prison. Il me dit, tu vas à une réunion, il y a des prêtres. Le premier prêtre que j'entends, au travail, délégué syndical, habitant avec des maghrébins, travaillant sur... dans le béton, ayant fait de grandes... Et je me suis dit, oh là là, je me suis trompé. Et j'ai eu envie de m'en aller. J'ai dit, je reste pas là. Et dans la nuit, je me suis réveillé en me disant, pas comme lui, mais comme ça. Et j'ai compris que ce qu'il veut me dire, qu'il m'avait complètement choqué, rejoignait. Et c'est pour ça que je crois beaucoup maintenant, quand j'entends quelque chose qui me dérange, est-ce que ça ne touche pas quelque chose de vrai en moi? et à partir de là, j'avance. Mais si je veux entendre que les choses qui me font plaisir, ben, ça, je ne sais pas si ça sert à grand-chose.
Alors, je vous reçois cette semaine en tant que prêtre, mais avec ce ministère d'exorciste. Pour vous, avec le recul, un peu plus peut-être de réflexion aussi sur ce ministère d'exorciste, qu'avez-vous découvert hein, justement au titre d'exorciste?
La solitude des gens.
La solitude des gens.
Et cette solitude, je dirais, c'est le diable. Parce que dans la solitude, on met tout, tout, tout. Et qu'est-ce qu'on met? Puisqu'on est seul, on met toujours ce qui m'a fait souffrir. Et à partir de là, si je suis seul et que je reviens toujours sur les échecs de ma vie, je fais comme un tournoiement permanent d'échecs. Parce que c'est comme des gens d'un certain âge, je vois. Oui, c'est des gens quand même, là où je suis, je vois pas les jeunes. Hein. Pour ça, on parlait on parlait un peu de spiritisme avant.
Hors antenne, on parlait des jeunes, oui.
De tous ces problèmes-là.
Oui. Vous les rencontrez pas?
Non, je vois pas. Mais c'est des questions.
Oui.
L'ésotérisme, toutes ces questions-là.
Les parents n'écrivent pas
Très peu sur
très
ce sujet. Parce que là, on montre bien que c'est un autre monde.
Eh oui.
Bien sûr. Oui. Si les parents me disent, mon petit-fils, il passe son temps sur son machin. Je dis, mais il faut lui dire d'arrêter. Il faut lui dire, quand tu viens chez mamie, tu ranges ça et tu m'écoutes. Et tu prends à table avec nous. Tu vas pas dans ton coin faire ça. Mamie, elle t'écoute. Elle te reçoit. C'est pareil.
Donc, vous parlez de solitude, mais oui. Les jeunes sont dans une profonde solitude.
Et bien sûr.
Face à leur écran, bien souvent.
Si, j'ai eu 2 ou 3 fois des jeunes, j'en ai eu un qui est venu me voir, qui justement parlant de solitude, et en discutant, il m'a dit qu'il avait beaucoup d'amis. Je dis, mais je ne comprends pas si tu as beaucoup d'amis. Non, ils sont dans mon portable. Ah ben, j'ai dit, ils te parlent quand? Et à la prison, j'avais remarqué ça, que beaucoup, à la fin de ma carrière, et ça me perturbait, je dois dire, ces jeunes qui, pour parler en vérité, en face à face avec quelqu'un, ils étaient tellement habitués avec leur smartphone et leur bazar, là, moi j'appelle ça bazar, que fallait qu'ils soient défoncés pour être désinhibés, parce qu'ils n'osaient pas. Une forme de timidité, pourquoi? Parce que quand on parle avec un smartphone, on n'a pas la réaction, on n'a pas le regard de l'autre, on n'a pas le ressenti de l'autre. Dans un dialogue, quand on échange, on regarde, je vous disais sur les larmes, ou sur quantité de choses. Et ça, c'est aussi important que les mots qu'on dit. C'est cette présence, comme quand on dit rien, mais il faut être là. Si j'ai qu'un smartphone à côté de moi pour répondre à ma solitude, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher encore des trucs, et ça ne répond pas au fond.
Donc il y a un grand mal, c'est au fond cette solitude, une solitude qui n'est peut-être pas habitée par une vie aussi intérieure. Vous parliez de cette vie intérieure qui est une vie de communion, d'union à Dieu dans une vie de prière.
Par exemple. Mais cette solitude, après, je suis obligé de lui trouver un bouc émissaire. Donc à ce moment-là, dans cette solitude, je construis. Alors, si je suis comme ça, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, à cause de cela. Et puis très vite, comme on a besoin de se rassurer, ben c'est à cause de machin que j'ai des histoires, c'est à cause de ceci. Et au bout d'un moment, on construit quelque chose.
Et on devient un peu accusateur?
Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, en accusant, ça me rassure. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que je me construis comme un monde dans lequel je m'enferme et que j'appelle mal. Parce qu'après, quand on dit j'ai mal au cœur, c'est quoi? Oh, ça me fait penser à une petite anecdote. J'ai eu reçu une dame en exorcisme, vraiment, ça m'avait beaucoup touché. Elle vient me voir et elle me dit, mon père, il faut que je vienne vous voir parce que j'ai un petit problème. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Mon père, mon mari a été greffé d'un cœur. Est-ce qu'il m'aime avec le cœur de celui qui est greffé ou avec celui avec lequel je l'ai rencontré? J'avais trouvé ça vraiment...
C'est adorable.
Ah, j'ai trouvé ça merveilleux, cette question. Oui. Mais ça pose une question très, 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 très lucide. Ça veut dire que notre corps a de l'importance pour cette dame. Le corps, le cœur avait de l'importance. Et peut-être que quand on est mal, justement, avec l'exorcisme, je me rends compte, je fais beaucoup la séparation entre l'extérieur et l'intérieur de soi. L'extérieur, son corps, et l'intérieur de soi, son, sa pensée, ce que j'appelle le on et le in dans mon langage à moi. Le in, c'est l'intérieur, le on, c'est l'extérieur, et l'extérieur, avec toutes ces expressions, toutes ces manifestations qu'on peut découvrir, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, on pourra se poser avec vous peut-être demain et après-demain cette question aussi du mal, comment lutter, et surtout peut-être apprendre à discerner quels sont un peu les critères, les symptômes qui peuvent inviter une personne à faire une vraie démarche et non pas n'importe quelle démarche quand on vient voir un prêtre exorciste. Oui, voilà, ne nous trompons pas, parce qu'il peut y avoir aussi besoin d'être soigné
d'être
avec une thérapie. Il y a un psychologue, un psychiatre. Les symptômes sont tout autres quand on vient trouver un exorciste.
C'est autre chose.
On va essayer de clarifier tout ça.
Et pourtant, les deux sont importants. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne psychothérapie sans présence d'amitié avec quelqu'un.
On en parle demain,
oui,
si vous voulez bien.
Pas de problème.
C'est une des clés peut-être.
Merci.
À demain.
À demain.